Bon, merci tous les copains et les copines de Clermont qui sont venus quand même, et tous ceux qui sont venus de très loin, parce qu'on a quand même des copains belges qui sont là de Charleroi, déjà un Allemand, peut-être plusieurs, donc c'est déjà pas mal. Donc le but, c'est de faire partir les marches européennes jusqu'à Séville, qui va se passer le 22 juin. Le but, donc, c'est de partir de Clermont. Pourquoi Clermont? Parce que y a notre cher Giscard, qui est président du Conseil régional, mais également président de la Convention européenne, qui, dernièrement, pour être d'ailleurs président, il s'est battu avec l'autre Italien, là, Berlusconi. Enfin, bref, c'est Giscard qui a eu la place, mais il s'est palpé du pognon aussi, quand même, il faut être clair. Alors que Giscard, ça fait des années qu'il nous refuse les transports gratuits ici. Nous, on estime que quand même, c'est un scandale, quoi. Et donc, on fait partir les marches européennes. Enfin, les marches européennes ont décidé de partir de Clermont parce que, justement, Giscard étant président de la Convention européenne, ça nous paraissait indispensable. Donc, tout à l'heure, à 4h30, on prend les voitures et on va devant le château de Giscard. Rappelez un peu tout ça. Et cet après-midi, donc, le but, c'était de faire, de parler un peu de cette fameuse convention européenne dont Giscard est président. Et ensuite, le débat sera ouvert. Alors, il y a Patrice Spatoni, des marches européennes, Michel Rousseau, qui vont prendre le relais. Voilà.
Michel, c'est le truc sur la convention, tu voulais dire moi avant ?
Quelques mots sur les marches européennes.
D'accord.
Bon, juste comme ça, on va pas être long dans nos interventions. Comme ça, ça va nous permettre d'avoir un débat avec vous. Juste quelques mots sur une histoire qui commence à exister depuis plusieurs années, qui est celle des marches européennes contre le chômage, la précarité et les exclusions. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est simple. Vous savez que depuis en gros la moitié des années 90, il y a l'émergence d'un mouvement qu'on pourrait appeler le mouvement des sans, S-A-N-S. C'est-à-dire que ça a été le mouvement des sans-logis et des mal-logés, ça a été le mouvement, c'était les chômeurs, les travailleurs précaires, qui ont commencé, je dirais, à se redresser dans la société, à s'engager dans des luttes collectives, à porter des revendications, à partir, en gros, du milieu des années 90, d'une façon importante. Il y en avait des luttes avant, bien sûr, mais d'une façon vraiment importante. Alors, une date importante, ça a été en 1994, les grandes marches pour lutter contre le chômage, les grandes marches de chômeurs qui ont traversé toute la France pour converger vers Paris. C'est d'ailleurs à cette occasion que s'est constitué un mouvement qui s'appelle « Agir ensemble contre le chômage ». Et puis, ce mouvement, il a eu donc cette dimension en France, mais en même temps, il y a dans d'autres pays également des associations, des mouvements qui se sont révélés de lutte contre toutes les formes d'exclusion, de précarisation de la société. Et donc, les uns et les autres se sont rencontrés et ont décidé d'une grande initiative qui ne serait plus cette fois-ci une initiative où chacun se battrait dans son pays, mais une initiative internationale. En effet, tout à l'heure, Michel Rousseau nous en donnera une illustration actualisée. Depuis des années et des années, ce que nous vivons dans nos différents pays, ça se coordonne au niveau, au moins, ça se coordonne au niveau mondial, mais déjà, ça se coordonne aussi au niveau européen. Il y a un grand nombre de décisions qui sont prises, qui ont une incidence très concrète sur nos vies quotidiennes des uns et des autres. Alors c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, tout ça semble très loin, ce qui se décide à Bruxelles, ce qui se décide au niveau des sommets des chefs d'État, tout ça nous paraît lointain, etc. Et pourtant ça a des incidences extrêmement concrètes. Et depuis des années et des années, les mouvements de chômeurs se sont rendus compte que c'est entre autres au niveau de l'Union européenne que se coordonne toute une politique pour faire pression contre les chômeurs, à l'encontre des chômeurs. Pour simplifier, c'est ce que nous appelons nous le travail forcé, c'est-à-dire en gros de mettre les chômeurs dans une situation impossible, intenable, où en gros on leur dit de choisir entre l'acceptation de n'importe quel type de travail, même complètement dégradé, même avec des salaires complètement pourris, même dans des conditions complètement vraiment détestables, ou alors ils voient leurs allocations de chômage ou leur RMI ou leur minimum au pays, etc., suspendues, sucrées. Donc ça, c'est un peu, c'est quelque chose qu'on a vécu chacun dans nos différents pays. Ça prend des formes différentes, évidemment, selon les pays. En France, ça a été notamment le PAR qui a permis d'avancer dans cette direction-là, mais il y avait déjà des mesures, y compris gouvernementales, avant le PAR qui allait dans cette direction, de faire pression, de vouloir que les chômeurs acceptent n'importe quel travail, ce qui fait que ça a deux résultats. Le premier résultat de ces politiques, c'est finalement de faire porter la culpabilité du chômage, de la précarité sur les épaules des chômeurs. Premier élément. Deuxième élément, eh ben, c'est de faire accélérer le nombre de travaux précaires, puisqu'on finit par accepter n'importe quel travail. Et donc, ça contribue à alimenter l'extension des travaux précaires dans nos sociétés. Alors ça ne se décide pas simplement en France, ou simplement en Belgique, ou simplement en Espagne. C'est une politique générale, en fait, qui se coordonne avec tous leurs discours des technocrates européens. Ils ont toute une langue savante. Par exemple, ils parlent d'employabilité. Ils trouvent tout un tas de termes, évidemment, pour enrober les choses. Mais en même temps, il y a des choses extrêmement brutales, très nettes, qui tombent avec des consignes qui sont données aux différents gouvernements pour aller dans le sens que, d'une part, les allocations de chômage sont quand même trop élevées et que, d'autre part, il faut faire pression pour que ces mauvais chômeurs, pratiquement les responsables du chômage, acceptent peu à peu les choses. Donc ça, si vous voulez, c'est une politique d'ensemble et l'idée a été de se mettre ensemble, associations et aussi un certain nombre de syndicats qui étaient de notre côté, pour agir, pas simplement chacun dans nos pays, mais avancer dans le sens d'une convergence et d'une coordination des luttes au niveau européen, tous ensemble. Donc ça a donné en 1997 15 marches qui sont parties des points les plus lointains de toute l'Europe. Les uns sont partis de Finlande, de l'autre côté du cercle polaire. D'autres, parce qu'on ne veut pas s'enfermer dans l'Europe, on ne veut pas être uniquement dans une Europe forteresse, sont partis de Tanger. D'autres sont partis de Bosnie. Bref, il y a eu 15 marches comme ça, de tout pays d'Europe, qui ont sillonné tous les pays pour converger vers Amsterdam, où se tenait un sommet de l'Union européenne. Donc c'était pendant deux mois une grande aventure. Il y a ici certaines personnes qui ont participé pendant deux mois à cette grande aventure. Et puis ça s'est fini par une très grosse manifestation pour l'époque et compte tenu de qui l'a composée, une très grosse manifestation notamment constituée de chômeurs d'exclus à Amsterdam en juin 1997. C'était un coup d'envoi, si vous voulez, pour un nouveau souffle pour la lutte contre le chômage, la précarité, mais aussi quelque part, ça a été un premier élément des luttes contre la mondialisation, si vous voulez, et qui a été porté, en fait, ce qui est assez ironique et fort, je dirais, par les chômeurs, les sans, ceux qui, normalement, entre guillemets, dans cette société, ceux qui devraient être muets, accepter tout, etc., et ben c'est cela qu'on dirait, quelque part, montrer la voie de la lutte internationale. Donc ça, c'était 97, je vous passe toutes les étapes. Un réseau s'est constitué après cette initiative où se sont retrouvés des associations et quelques syndicats aux côtés de ces associations, des associations de chômeurs. En France, vous avez les trois mouvements importants d'associations de chômeurs qui sont le Mouvement National des Chômeurs et Précaires, l'APES et AC, qui se retrouvent ensemble dans ce réseau, donc un réseau qui s'est construit et qui a décidé de continuer la bataille et de la continuer sans cesse pour faire pression sur l'Union européenne, sur les gouvernants et pour interpeller surtout les opinions publiques et y compris les autres mouvements sociaux, pour leur dire qu'il faut aller vers une convergence des différents mouvements sociaux, qu'il n'y a que par la lutte et que par cette convergence et ces coordinations qu'on réussira à faire reculer les choses, faire reculer cet ordre libéral qui, en fait, organise tout au niveau de l'Europe dans le sens des intérêts, du profit et du grand capital. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous marchons contre l'Europe du capital. Alors, il y a eu d'autres, après la marche de 97, il y a eu d'autres grandes initiatives. On a pratiquement manifesté à tous les sommets de l'Union européenne. Et en 99, il y a eu une grande marche qui était celle qui a été de Bruxelles à Cologne. Et puis là, et je conclurai là-dessus, on est en train, aujourd'hui même, de vivre le premier chapitre d'une nouvelle aventure dans cette saga, si vous voulez, qui est la marche de Clermont-Ferrand à Séville. Séville où il y a un sommet de l'Union européenne qui va se tenir et où il y aura plein de choses, évidemment, à l'ordre du jour de ce sommet de Séville. Mais il y aura notamment, très probablement, des décisions qui seront prises, qui seront des décisions retournées contre les populations issues de l'immigration. Et pour notre part, pour nos mouvements, nous sommes des mouvements solidaires des populations issues de l'immigration. Nous sommes pour une Europe généreuse, ouverte, et pas du tout pour une Europe forteresse et une Europe qui s'enrichit sur le dos, y compris des populations issues d'immigration, comme celle qu'il y a aujourd'hui. Donc on est solidaires là-dessus. Mais il y a aussi tout un tas d'autres conséquences, d'autres choses qui vont s'y décider. Et puis toujours, après chaque sommet, je dirais, un pas de plus vers plus de précarité, plus de privatisation, et donc ce qui a une incidence pour toute la population, mais encore plus grave, je dirais, pour les populations issues du ça. Donc, ça, c'est pourquoi nous allons à Séville. Cette grande marche, en fait, elle a deux étapes, elle a deux grandes étapes, je dirais. La première, c'est celle qui part de Clermont, qui arrive jusqu'à Perpignan, la traversée de la frontière, où c'est essentiellement aidé, heureusement, par des syndicalistes à chaque étape, et rejoint par des syndicalistes à chaque étape, mais c'est quand même essentiellement, il faut le dire, des chômeurs, des sans-domicile qui sont dans la marche. Et puis la deuxième étape, qui est l'étape espagnole, et notamment d'Almeria à Séville, où il y aura à la fois les mêmes, plus des syndicalistes, notamment de France et d'Espagne, et puis des jeunes, vous savez, il y a un mouvement, on dit le mouvement important, contre la globalisation capitaliste. Il existe évidemment dans le monde entier, mais il y a des pays où il est plus développé que d'autres. L'Espagne est un des pays où ce mouvement est le plus développé. Au premier sommet de l'Union européenne à Barcelone en mars, il y a eu pratiquement 400 000 personnes qui ont défilé, et une grande majorité des gens qui ont défilé contre le premier sommet, c'était des jeunes. Et bien ces jeunes, nous allons les retrouver avec nous, donc dans la deuxième partie de la marche, et puis dans une grande manifestation qui aura lieu le samedi 22 juin, et dont les organisateurs espèrent qu'il y ait près de 500 000 personnes présentes dans les rues en même temps. Donc voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long, voilà brassé à grands traits l'aventure des marches européennes, et voilà ce qu'on est en train de vivre, quoi. Et avec vous, nous sommes en train de vivre donc la première journée de cette marche Clermont-Ferrand, Séville, et puis Michel Rousseau, qui comme moi fait partie du secrétariat, donc un peu la tâche, si vous voulez, d'aider à la coordination du réseau des marches européennes, va nous expliquer notamment ce qui se prépare au niveau des institutions de l'Union européenne, en n'oubliant pas, bien sûr, Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, car c'est une des raisons, c'est pas la seule, mais c'est une des raisons qui fait qu'on fait notre point de départ ici. Donc, Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, qui a la mission de préparer la rédaction de la future Constitution. Merci.
Bon, alors, mais ça, je crois qu'il n'aura pas de mal. Je demanderai à Alain de m'arrêter quand il pense que ça suffira. Parce que moi, je suis bavard. Donc, non, tu me mets quelques minutes avant. Voilà, tu me fais signe que j'ai quand même le temps de conclure. Alors, je sais pas, c'est un quart d'heure, 20 minutes, quoi.
Ouais. Bon, je sais pas. Il est 3 heures. En zone jusqu'à 3h15, comme ça qu'on a un petit débat, parce D'accord. qu'à 4h30, il faut qu'on arrête. Okay.
Vous savez, les voilà. Espagnols, là, maintenant, en assemblée, quand ils en ont marre de l'orateur, ils font ça. Alors, si je vois tous faire ça à un moment, c'est qu'il faut arrêter. Ça y est, c'est déjà fait.
Comme ça, pour dire que c'est la position.
Bon, commençons. Alors, donc, puisqu'il y a peu de temps, évidemment, on va essayer d'accélérer. Bon, vous comprendrez que c'est pas difficile, c'est pas facile, en un quart d'heure, de faire la synthèse de tout ça. Mais quand même, quelques réflexions, disons quelques pistes qui nous permettront de réfléchir. Et d'abord, mais pourquoi les marches européennes s'occupent-elles de la Convention, de la Constitution européenne? Je crois que Patrice l'a un petit peu dit. C'est que, vous savez, on est allé sur le terrain européen de manière très pragmatique. Comme on se rendait compte que c'était très difficile de débloquer les situations de chômage de masse et de longue durée qui durent maintenant depuis plus de décennies en Europe, dans le cadre des États nationaux, on s'est demandé s'il ne fallait pas frapper un peu plus haut, c'est-à-dire au niveau de l'Union européenne, qui est la structure responsable économique de ce qui se passe dans nos pays. Donc, bon, on y est allé de manière tout à fait pragmatique. Et à ce sommet d'Amsterdam, effectivement, il devait être causé sur l'emploi. En fin de compte, ça a été repoussé à un sommet ultérieur qui était le sommet de Luxembourg, qui a été spécifique sur ces questions-là. Après, bon, avec un moment fort au moment du sommet de Lisbonne, dernièrement le sommet de Barcelone, toujours sur les questions de l'emploi. Et il y a des fois, on se demande si on a bien fait d'attirer l'attention des gouvernements européens sur cette question-là. Parce que, bon, si maintenant ils s'en occupent, on s'est rendu compte qu'ils s'en occupaient pas du tout dans le sens qu'on attendait, bien au contraire, c'est-à-dire bon, qu'ils ont mis en place, grosso modo, une grande politique de précarisation des emplois à l'échelle européenne pour arriver à ce qu'ils disent en 2010 au plein emploi, mais leur plein emploi à eux, c'est-à-dire bon, nous, ce que nous considérons comme des sous-emplois. Nous ne nous sommes pas battus pour les sous-emplois, nous nous battons pour de vrais emplois dans tous les pays d'Europe pour éradiquer ce cancer de la société qui est le chômage. On a vu ce que ça a donné récemment dans les élections. Voilà, bon, Ceci dit, maintenant, nous connaissons un petit peu mieux où se passent les choses, où elles se décident. Et pourquoi parler de la convention qui prépare la Constitution ? Parce que nous venons d'avoir l'expérience d'une autre convention qui vient de se tenir, qui est celle de la Charte des droits fondamentaux, qui nous a mobilisés à Nice, qui nous a mobilisés pendant et après. Et maintenant, nous inscrivons aussi dans ce débat-là pour plusieurs raisons. Parce que d'une manière générale, je dirais, dans nos pays, que ce soit la France, la Belgique, l'Allemagne, je dirais tout le monde s'en fout. Qui sait aujourd'hui en France, en Espagne, dans n'importe quel pays de l'Union européenne, qui sait que nos gouvernements nous préparent une nouvelle constitution ? Dans les histoires de chacun de ces pays, quand il y avait une nouvelle constitution en préparation, c'était souvent au moment d'affrontements sociaux et politiques d'envergure, et tout ça se terminait par une constituante, c'est-à-dire où les différentes composantes politiques qui voulaient changer la façon dont les pays étaient dirigés se réunissaient et arrivaient à des constitutions dont on vit encore aujourd'hui, par exemple en France. Donc aujourd'hui, c'est un processus tout à fait différent qui est mis en cours. On nous prépare une constitution, comme disaient les Guignols, à l'insu de notre plein gré. Personne, à part quelques réseaux militants et encore pas tous qui savent que l'on prépare ça, la plupart ne le savent pas, tout ça se fait, encore une fois, en Union européenne, dans le dos des peuples qui la composent. C'est comme ça que les patrons ont construit l'Europe depuis 50 ans. Il fallait surtout pas en parler. Si on en parlait, ça risquait de fâcher. Donc pour ne pas fâcher, on laissait à chaque État gérer ses problèmes, et en même temps, par derrière, on construisait, ils ont construit. Au niveau syndical, au niveau associatif, on a pris un retard énorme, mais eux ont construit. Depuis 50 ans, ils ont mis cette Europe économique en place, dont on vient de voir le dernier aboutissement avec l'euro. Et la machine tourne. Bon, elle a des problèmes, certes. C'est pour ça, justement, parce qu'elle a des problèmes, que maintenant, ils voudraient passer à une étape supérieure. Parce que c'est quoi le problème essentiel ? C'est déjà, pour fonctionner à 15 de manière efficace, au niveau structurel, au niveau que ce soit parlementaire, législatif, exécutif, ceux qui font les lois, ceux qui les appliquent, ceux qui prennent les décisions, etc. Il y a de plus en plus de problèmes posés. Comment on prend une décision ? Est-ce qu'on la prend à la majorité des présents, c'est-à-dire des gouvernements ? Ou est-ce qu'on la prend à l'unanimité des gouvernements, au consensus, etc. ? Bon, il y a tout un tas de questions qui, maintenant, les bloquent pour continuer, grosso modo, pour aller vite, l'application des politiques néolibérales que l'on rencontre dans le monde entier. Les experts de l'Union européenne, notamment regroupés autour de la fameuse Commission européenne, qui est un gouvernement sans être un gouvernement, tout en étant un gouvernement, enfin bon, un truc hybride un peu à part, un ersatz, qui est difficilement identifiable mais très efficace, puisque c'est là que s'élaborent les décisions, et après les gouvernements se réunissent souvent pour avaliser les décisions qu'a prises la décision. La recommandation, après la réunion des gouvernements, devient une directive qui doit s'appliquer dans tous les pays. Donc ils ont un problème de fonctionnement de la machine. D'autant plus que déjà, ils ont un problème pour fonctionner à 15. À 6, c'était plus facile. À 15, c'est un peu plus difficile. Et puis surtout, maintenant, on a un problème énorme qui arrive. C'est ce qu'ils appellent l'élargissement. L'élargissement, c'est, après la chute du mur de Berlin, la possibilité d'intégrer dans le cadre de l'Union européenne, tous les pays de l'Est, ou au moins une grande majorité d'entre eux, ceux qui, économiquement, peuvent subir le choc de cette entrée. Donc tout ça est planifié pour les années qui viennent. Encore une fois, tout ça est planifié un petit peu dans le dos des gens, parce que la plupart ne le savent pas. D'une certaine manière, l'euro aura servi à quelque chose, indépendamment des problèmes économiques, bien sûr. L'euro aura servi à quelque chose, c'est que maintenant, chaque Européen de l'Union européenne a un petit peu d'Europe dans sa poche, un petit peu d'Union européenne dans sa poche. Donc ça peut peut-être accélérer aussi un processus de réflexion sur d'où viennent ces pièces, où est-ce qu'elles vont, etc. D'où vient cette Union européenne, où est-ce qu'elle va, et comment on est impliqué là-dedans. Alors comme je vous ai dit, nous, on s'est attaché à suivre les textes de l'Union européenne, et là-dessus, merci à nos amis belges, parce que, eux, ils sont dans le bénitier à Bruxelles, donc ils suivent ça de près. Mais nous-mêmes, au niveau des organisations de chômeurs, nous connaissions assez peu les textes qui régissaient, en fait, les politiques de l'emploi et de lutte contre le chômage en Europe. Nous les connaissions même pas du tout. Et il a fallu que l'on apprenne à lire, c'est eux qui nous l'ont appris, à lire les textes de Luxembourg, les textes de Cardiff, de Vienne, enfin, à chaque fois qu'ils se réunissaient, de lire les décisions qu'ils prenaient pour comprendre un petit peu ce qui se passait. Et il y a eu une accélération au moment de la charte de Nice. Je vais aller très vite là-dessus, puisque vous connaissez en grande partie. Vous savez que à Nice, nos gouvernants voulaient, pour l'ensemble de l'Union européenne, une charte des droits fondamentaux et sociaux. En fait, c'était une charte de certains droits fondamentaux, effectivement, qui était, mais les droits sociaux avaient plus ou moins disparu. Les droits sociaux, c'est quoi? C'est notamment les droits du travail, c'est-à-dire tout ce qu'ont acquis nos aînés en un siècle de lutte quelquefois sanglante. Tout ça, un petit peu, était mis à la poubelle. En matière de travail, dans cette charte, on a le droit de travailler, encore heureux, mais on n'a pas le droit au travail. C'est-à-dire que, grosso modo, mais bien sûr, le droit de travailler, heureusement, on a le droit de respirer aussi. Mais les droits du travail ont disparu. Par rapport aux questions du revenu, vous savez, dans la charte, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a un article célèbre et sur lequel on s'appuie souvent, qui dit que chaque être humain, homme, femme, vieux, jeune, etc., chaque être humain doit avoir de quoi vivre. Ni survivre, ni vivre dans la dignité ou ceci ou cela, vivre tout simplement. Eh bien, dans la charte de l'Union européenne, tout ça disparaît pour être remplacé par le droit à la charité, grosso modo. C'est-à-dire que quand on est dans des cas d'extrême urgence, ceux qui habituellement, les associations, églises, etc., qui font la charité, pourront la faire d'une manière plus générale et seront aidés pour ça. Mais bon, ce n'est rien, évidemment, un droit revenu. Donc, bon, c'est quelques exemples sur lesquels nous, on a attiré l'attention, mais bon, il y en a beaucoup d'autres, qui nous montraient quoi ? Que, en fait, cette charte de l'Union européenne était une charte des droits au rabais et une charte du plus petit dénominateur commun des droits pour que aucun gouvernant ne soit lésé en la matière. C'est-à-dire que Tony Blair ayant dit les droits, ça n'ira pas plus haut que ça, sinon moi je ne signe pas, mais du coup, voilà, tout le monde s'est mis au plus bas des niveaux des droits en Europe pour que Tony Blair signe ça et qu'il y ait une certaine unanimité autour. Et cette charte de l'Union européenne a été préparée par quoi ? Petit changement par rapport à ce qui se faisait précédemment, par une convention qui réunissait effectivement des membres de la Commission, des membres des gouvernements, des parlementaires, et également tenait des séances publiques, c'est-à-dire où les citoyens européens pouvaient assister, voir ce qui se passait, et également était à l'écoute des associations, de ce qu'ils appellent, vous savez, la société civile, grosso modo, les associations plus ou moins intégrées, certains syndicats, etc., etc. Donc, cette convention s'est réunie également pendant près d'une année pour produire cette charte. Et c'est pour ça que, tout cela nous a mis la puce à l'oreille et fait que maintenant nous attirons l'attention sur la nouvelle convention qui va préparer la Constitution. Parce que, mais disons, le fonctionnement est le même. C'est-à-dire que cette convention, comme j'ai pas beaucoup de temps, je ne vais pas vous donner le détail, mais grosso modo, 105 membres titulaires. Sur les 105 membres titulaires, un président... Ah, il est parti, Alain. Le président...
Ça ne sera pas lui.
Ça ne sera pas Alain, non, voilà. Giscard d'Estaing, deux vice-présidents, 15 représentants des chefs d'État, 30 membres du Parlement, 16 membres du Parlement européen, 2 représentants de la Commission, 36 représentants des pays candidats, à quoi il faut ajouter 102 membres suppléants. Donc voilà, tous ces gens-là se réunissent régulièrement maintenant depuis quelques mois, doivent terminer leurs travaux début 2003 pour que tout ça soit validé en Italie l'année prochaine sous la présidence de Berlusconi. Tous ces gens-là préparent une constitution européenne et là-dedans les associations comme les nôtres, disons pour le moins qu'on a du mal à se faire entendre dans les canaux qu'ils ont prévus légalement. Légalement, ils ont prévu des observateurs, donc il y a deux associations particulièrement bien représentées qui sont les associations patronales en Europe, ça va, ils ont deux places. La troisième association, c'est la Confédération européenne des syndicats. Et ensuite, ils mettent en place des groupes de travail où les associations par thème, immigration, chômage, etc., précarité, de tous les thèmes qui concernent les droits, où les associations peuvent se réunir et, émettre certains vœux. Et là, un des vice-présidents, de Han, le Belge, là, c'est de Han ou de Haine qu'on dit, je ne sais plus, de Han, s'est engagé à bien écouter. Alors bon, il faut voir ce que ça veut dire, bien écouter. Pendant qu'ils préparaient la convention de la charte des droits fondamentaux qu'ils ont adoptée à Nice, les séances étaient ouvertes. Donc on pouvait assister un petit peu à la façon dont ils écoutaient. Alors effectivement, un certain nombre d'associations écoutaient un commissaire qui était venu les écouter. Je vous assure, c'était sidérant. Et bon, ça a duré pendant 2 heures. Alors, il y avait traduction, il y avait tout, chacun, etc. Et puis à la fin, le commissaire se levait, prenait ses notes en disant « Je vous remercie, je vous ai bien écouté, et bien sûr, vous me faites confiance pour répercuter tout ce que vous avez dit. » Sidérant, c'est quand on entendait ça, on se disait « Mais attendez, dans quelle époque on vit là ?» Et voilà, et donc tout ça continue. Tout ça continue. Ils ont mis plusieurs mois déjà à savoir comment ils fonctionnaient entre eux. Maintenant, ils vont passer, disons, au sujet lui-même. Et puis bon, ben, les mois passent. Bon, il y a un site où on peut envoyer nos textes si on a des remarques à faire, c'est très bien, etc., etc. Mais enfin, ce fonctionnement-là n'est plus possible. Ce fonctionnement-là n'est plus possible. À 200, ils sont en train, en comité fermé, même si en théorie on peut y assister. Au Parlement européen, ils mettent des écrans. On peut voir dans la salle d'à côté, sur un écran, ce qu'ils font. D'accord ? Ça va, c'est gentil, mais enfin, bon, c'est pas comme ça qu'on participe vraiment à l'élaboration de quelque chose. Donc, ils sont en train de préparer une constitution qui va concerner plus de 500 millions de citoyennes et de citoyens européens, avec une méthode, disons, qui fait penser au pire des bureaucraties, quoi. C'est-à-dire, voilà. Alors, bon, ils sont conscients quand même qu'il y a un problème. Hein. Ils sont conscients qu'il y a un problème. C'est-à-dire, bon, ben, une fois qu'ils auront élaboré cette constitution, comment ils vont la faire passer et adopter par l'Union européenne ? Ils ne peuvent pas l'autoproclamer comme ça serait trop grotesque. Donc, de ce côté-là, on a une échéance, qui est 2004. 2004, ce sont les élections européennes. Donc, il sera difficile à tous ces experts gouvernants et autre chose de nous expliquer en 2004 qu'il faut voter pour eux et la nouvelle constitution qu'ils viennent d'élaborer, dont on aura vu que peu de choses avant. Le temps passe vite, Alain, je vais essayer d'accélérer encore. Quand même, quelques remarques. La bataille, elle n'est pas perdue. Parce que 2004, c'est très rapide. Hein. On est en 2002. 2003, ils rendent leur copie. Sous la présidence de Berlusconi, ils vont labelliser ça au niveau des gouvernements. Et puis, bon, 2004, les élections. En attendant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais déjà, faire savoir que... Une constitution à laquelle on n'aura pas participé, qui n'est pas notre constitution, mais ça ne sera pas la nôtre, et puis c'est tout. Déjà, le faire savoir fortement. Deuxièmement, bon, en tant qu'association de chômeurs, en tant qu'association de précaires, etc., bon, nous n'allons pas donner des réponses sur la forme politique que doit prendre l'Union européenne, s'il faut une constitution, s'il n'en faut pas, s'il faut élargir, s'il ne faut pas élargir. Ça, je dirais, bon, ce n'est pas dans notre rôle. Il y a des organisations, des organisations politiques pour ça. Par contre, il y a quelque chose, y compris sur lequel nous devons faire très attention, parce que ce n'est pas nécessairement la première préoccupation des organisations politiques. Si nous ne rappelons pas de manière claire quels sont nos droits, qu'est-ce que nous attendons de quelque constitution que ce soit, de quelque charte que ce soit, si nous ne rappelons pas ça très fortement, et pas seulement dans des réunions, mais disons dans des rapports de force concrets, dans des mobilisations d'envergure, eh bien si nous ne rappelons pas cela, eh bien, après on ne pourra pas dire « Ah ben non, on ne savait pas, ils ont fait ça derrière nous, patati-patata ». Si, on sait qu'ils le fassent, c'est à nous de nous faire entendre fortement. Alors pour ça, nous avons quelques possibilités. En France, nous avons réuni une structure qui s'appelle le collectif citoyen des droits fondamentaux qui s'occupe de lister, pas seulement cette structure-là, mais une entre autres, de lister tous les droits fondamentaux et sociaux qui sont incontournables pour nous dans quelque constitution que l'on veuille nous imposer. Deuxièmement, il y a une échéance importante en Europe qui va se tenir au mois de novembre dans le cadre du Forum social européen avec pratiquement toutes les composantes sociales des mouvements sociaux, syndicaux que l'on rencontre en Europe, qui étaient à Porto Alegre. Il a fallu qu'ils aillent à Porto Alegre pour décider de se rencontrer en Europe. Enfin, qu'on se rencontre en Europe pour régler un certain nombre de problèmes qu'il faut régler au niveau européen. Donc, ceci va se tenir en novembre, et là, c'est une occasion unique. Parce que pendant que 200 se réunissent pour nous préparer une constitution, nous serons au moins 20 000 représentants de tous les mouvements sociaux de toute l'Europe, voire avec des représentations du monde entier, parce que, comme l'a dit Patrice, nous ne voulons pas une Europe contre le monde, mais une autre Europe pour un autre monde. Nous serons plus de 20 000 représentatifs de cette société civile dont ils se targuent tant, alors que nous la sommes, cette société civile, et pas leurs organisations croupions qu'ils ont dans leurs conventions. Donc nous serons 20 000. Ça sera une occasion de faire entendre notre voix de manière forte sur qu'est-ce que c'est les droits en Europe, qu'est-ce que c'est que la démocratie en Europe, et refuser les caricatures qui nous en présentent. Donc voilà, nous n'avons pas, nous avons encore beaucoup d'atouts dans notre main. Maintenant, ne négligeons pas une chose, si nous n'agitons pas la colle, comme on dit dans nos associations, pour coller les affiches et puis montrer qu'ils ne peuvent pas faire ça à l'insu, encore une fois, de tout le monde. Si nous ne le faisons pas, eh bien, personne ne le fera à notre place. C'est pour ça qu'à partir de notre expérience de marche européenne, nous inscrivons en plein dans ce processus-là et nous profitons de partir de Clermont pour rappeler à Giscard d'Estaing, grand démocrate comme chacun connaît, alors paraît-il qu'il a, vous avez lu Libé aujourd'hui, il n'a pas décidé d'idées préconçues pour la future constitution. C'est étonnant ça. De même, bon, Le Monde a quand même signalé que la Convention s'interroge sur le rôle des parlements nationaux. Parce que ceux qui préparent la Constitution vont régler le problème de tout le monde. Hein. Quelle place des syndicats? Quelle place des associations? Quelle place des parlements nationaux? Quelle place du Parlement européen? Quelle place de la Commission européenne? Quel rapport entre tout ça? Quel pouvoir au pays? Quel pouvoir aux régions, etc., etc. Tout va y passer. Donc le morceau est trop gros pour qu'on s'en désintéresse, évidemment, de notre point de vue d'association, et pas en tant que parti politique qui aurait des réponses à toutes les questions qui sont posées.